Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous et bienvenue à La Grande Table, le magazine culturel de la mi-journée sur France Culture. Une émission préparée aujourd'hui avec l'aide de Madame Sarah Bernard, anciennement cuvelier, et de Ségolène Darny. Une émission coordonnée par Brigitte Masson et Corinne Amard. Perret Legras est à la réalisation, Thibaut Germez à la prise de son. Au menu de ce mardi 18 septembre, dans la première partie conversation avec nos trois complices du jour autour de l'utilisation politique de l'archéologie à partir d'un essai passionnant qui retrace l'histoire d'une vaste entreprise d'instrumentalisation, celle d'une réécriture du passé de l'Europe par les nazis entre 1933 et 1945, réécriture qui s'est appuyée sur les travaux d'archéologues. Gérard Mordilla, Pascal Blanchard et Toby Nathan en discuteront dans un instant. Puis après le journal, nous poursuivrons et terminerons notre cycle sur la situation des pays arabes vus par le prisme de la fiction. Après le Liban, le Maroc et la Syrie, c'est au tour de l'Égypte d'être au centre d'un livre et d'un film de cette rentrée. Le livre, c'est Rêveur d'Alain Blotière, l'histoire croisée de deux adolescents en mal de vivre, l'un près de Paris, l'autre au Caire. Le film, c'est Après la bataille de Nusri Nasrallah qui raconte la rencontre entre un cavalier des pyramides et une jeune bourgeoise caïrote sur fond de manifestation place Tahrir, deux regards sur l'espoir, le désir, le rêve et la rencontre de deux mondes que tout oppose. Alain Blotière et Nusri Nasrallah seront les deux invités tout à l'heure à partir de 12h55.
On voit très bien que, avec l'expérience du nazisme, que l'archéologie a un rôle fondamental qui est de révéler les origines collectives. Et donc, avec l'aventure nazie, la catastrophe nazie, en fait, l'archéologie se trouve entraînée dans un programme qui est carrément, comme on le sait, un programme de germanisation de l'Europe et un programme d'extermination raciale. Elle y est impliquée activement, c'est-à-dire qu'elle sert de démonstration scientifique du bien fondé de cette politique. Et après 1940, au moment où l'Europe est envahie par les armées du Reich, elle devient un outil de démonstration de la légitimité de l'annexion ou de la reconquête de ces territoires.
L'implication de l'archéologie, l'utilisation, on pourrait même dire l'instrumentalisation de l'archéologie comme science, eh bien c'est le sujet d'un livre de Laurent Olivier qu'on vient d'entendre là au micro de Vincent Charpentier en 2007 sur France Culture. Laurent Olivier est conservateur en chef du patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Son livre s'intitule « Nos ancêtres, les Germains ». Il vient de paraître aux éditions Talendier et c'est vous, cher Gérard Mordilla, qui vous êtes chargé de nous le présenter. Bonjour à vous.
Bonjour. Ben oui, vous le présentez, j'ai envie de me placé sous la tutelle de mon ami Jérôme Prieur qui le préface et qui dit une chose parfaite à mon sens. Il dit « c'est un livre gênant qui déterre un cadavre et s'en prend au monstre ». Et c'est vrai que dans ce livre absolument remarquable, le cadavre, eh bien, c'est celui des archéologues français qui collaborèrent de gré ou de force avec l'occupant. Et les monstres, les archéologues nazis mandatés pour tirer du sol les preuves irréfutables, scientifiques, comme vient le dire Laurent Olivier, de la présence germanique en Europe. Alors en France, bon, ça sera l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne et aussi la Bourgogne. Bon, tout ça doit montrer que tout ça venait de Germanie.
Et comment ? Comment s'y prenait-il ?
Ben, il s'y prenait tout simplement.
On découvrait des haches, on découvrait
oui,
des
c'est
toits.
C'est-à-dire que c'est pas tellement ça, c'est qu'il reprenait les travaux des archéologues français et les interprétait dans le sens de la germanification de l'ensemble de la pensée. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'au fond, il fait l'archéologie de l'archéologie, quoi. Alors, parce que pour les nazis, ben, c'était clairement une utilisation politique. Il fallait que prouvé scientifiquement que l'aryanisation voulue du monde reposait sur la Terre, reposait sur des choses enfouies très profondément dans notre histoire et dans notre culture. Et il s'agissait de s'accaparer le passé. Alors, on ne peut être encore une fois qu'admiratif de George Orwell en pensant que dans 1984, eh bien, c'est la tâche fondamentale des fonctionnaires de réécrire quotidiennement le passé au regard de ce qui se passe dans le présent pour accorder l'un et l'autre. Et donc, c'est ce que voulaient faire absolument les nazis. Il y avait deux grands instituts très rivaux, l'un dirigé par Rosenberg, qui était l'idéologue nazi, et puis l'autre qui était appuyé sous la tutelle d'Himmler. Alors, ces deux instituts vont se livrer une bataille féroce, et puis ils vont arriver en France. Et finalement, les archéologues français vont être très heureux de cette arrivée. Pourquoi ? Bien parce que l'archéologie française est à ce moment-là une archéologie d'amateurs, et là arrivent des gens qui vont, d'une certaine manière, approcher l'archéologie de façon moderne, scientifique, avec des moyens considérables jamais vus en France. Et finalement, les Français vont trouver là, tant pis si c'est des Allemands, ça nous sert et ça nous servira. D'ailleurs, ça sera leur excuse après la guerre, on ne pouvait pas faire autrement, on n'a pas pu faire autrement, etc. etc. Mais cette archéologie, c'est ça qui est très fort dans le livre, ça nous renvoie à des tas d'histoires du passé, parce que n'oublions pas que Napoléon III a fait la même chose avec les Gaulois vers Saint-Gétorique, Alésia, etc., pour fonder son empire en disant « voilà, on appartient à ça ». Et puis derrière lui, Pétain fera exactement la même chose en reprenant ses travaux sur vers Saint-Gétorique. Et aujourd'hui, on voit par exemple comment en Israël, les chercheurs sont sommés de creuser pour prouver que les Juifs ont de tout temps, en tout lieu, occupé la terre d'Israël, même en contradiction absolue avec les récits de la Bible hébraïque. Alors moi, je crois que c'est ça l'intérêt passionnant du livre, parce qu'avec Yves Lacoste, on a appris que la géographie, c'était la guerre. Et avec Laurent Olivier, on apprend que aussi l'archéologie, c'est aussi la guerre.
Et c'est ce qu'il lui fait dire dans son livre, c'est pourquoi le nazisme n'en finit pas d'être une question d'actualité. Toby Nathan, bonjour à vous, avez lu ce livre aussi. Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Gérard Mordillat ?
Je trouve qu'il a fait un résumé parfait du livre. Le problème, c'est que derrière ça, il y a quelque chose de... Enfin, c'est pas qu'il le dit pas, c'est que j'aimerais souligner le fait que derrière ça, il y a cette référence à l'origine, quoi. On a fait un bond, en fait. Jusqu'alors, l'origine, c'est un mythe. Nous avons tous une origine mythique. Et c'est même indispensable. Pour qu'on soit vivant, il faut que nous ayons une origine mythique. Et tout d'un coup, elle est plus mythique, elle est scientifique. Et c'est les Allemands qui apportent ça. Et c'est au moment du passage de l'origine mythique à l'origine scientifique que les choses dégringolent, en fait. Parce que, évidemment, nous avons tous des ancêtres. Moi, je me souviens d'un événement absolument, étonnant, quoi. Quand les savants, anthropologues, archéologues sont venus dire aux Indiens d'Amérique, en leur faisant un colloque, écoutez, vous venez de Sibérie, vous êtes des Asiatiques, vous êtes en fait des Sibériens. Et les Indiens leur ont répondu, vous êtes simplement des migrants, beaucoup plus anciens que les Américains. Vous êtes venus il y a 50 000 ans, eux ils sont venus il y a 500 ans, mais finalement vous êtes tous des migrants. Donc personne n'est légitime sur la Terre. Les Indiens ont répondu, tu rigoles, nous on est nés de la Terre. On est nés de la Terre elle-même. Pourquoi ? Parce que c'est le mythe. On essayait de leur faire de la science, et eux, ils ont répondu, c'est le mythe. Moi, je me souviens aussi très bien que, quand j'étais au Bénin, je parlais avec mes amis Yoruba, il y avait plusieurs familles, et la famille chez laquelle j'habitais, ils me disaient, moi, mon ancêtre, c'est un crocodile. Et alors, mon ancêtre, c'est un crocodile. On ne peut pas dire que c'est de l'archéologie.
Adam et Ève sont aussi nés de la Terre. Adam est né de la Terre.
Non, je veux dire, c'est cette notion de mythe est quelque chose de fondamental. L'archéologie s'attaque à ça. L'archéologie nazie a bien pigé la chose. Elle est allée chercher le problème là où il y avait le mythe. Et là, je trouve que c'est ce bouquin pose la question, mais de manière déchirante, entre mythe des origines, qui est quelque chose d'indispensable, et récit scientifique des origines, qui est quelque chose de tout autre. Et je crois que là, le bouquin le pose de manière très vigoureuse, quoi.
Quand le mythe se confond avec la science, et aussi quand on confond antériorité et légitimité, comme vous venez de le dire. Pascal Blanchard.
Oui,
et
puis alors ce livre, ce qui est fascinant, c'est... Alors moi, je l'ai commencé... D'abord, je n'en avais pas entendu parler avant, j'ai adoré. C'est
très bien. Merci Gérard Mandillard.
Voilà, tout à fait, merci.
Oui, c'est grâce à Gérard, tout ça.
Mais ouais, voilà. Et mais je me suis dit, bon, super, on va parler de l'Allemagne. Et en fait, je découvre qu'il y a deux grandes parties sur la France. C'est là, ce livre aussi est fascinant. C'est pas simplement...
C'est les mieux.
C'est les mieux. D'ailleurs, en plus, tout à fait, j'allais le dire. C'est les deux, le chapitre 2 et 3, je trouve, sont les plus... Les deux dernières parties sont les plus intéressantes. Parce qu'ils parlent bien au-delà... D'ailleurs, le titre est génial, parce que c'est un très bon jeu de mots que je n'avais pas compris au début. Nos ancêtres, les Germains, c'est pour répondre aux Français que nos ancêtres, les Gaulois. Parce qu'on se rend compte qu'en plus, derrière ça, il y a une histoire d'ancêtres qui s'entretuent, quelque
part.
Parce que Vichy, c'est toute l'allégorie gauloise. Il y a même une citation que je n'avais jamais lue, moi. J'étais de Pierre Gaziot, qui est ministre de l'Agriculture.
Ah bah, je l'avais noté aussi, celle-là.
Elle est fantastique. Qui dit, en gros, c'est pas grave. Il y a 2000 ans, il s'est passé la même chose face aux Romains. Nous allons renaître d'une nouvelle civilisation dans ce choc avec l'Allemagne, dans cette future Europe. Et là, on se dit qu'il se passe deux choses. En même temps, c'est que chacun va puiser dans le passé une forme d'écriture de son présent. Alors, les nazis le font avec la grosse machine, parce qu'il n'y a pas que l'archéologie, on sait que l'histoire aussi est mise en branle, on connaît tous l'histoire de l'anthropologie et de l'ethnographie en Allemagne, on sait que c'est toute une machine scientifique qui s'est mise au service du discours nazi, et de très tôt. On découvre même dans ce livre qu'en fait, toutes les thèses que vont porter l'archéologie nazie existent même avant la période nazie, dès 1932. Posé avec tous les paradigmes, avec une
c'est
pensée...
1900, c'est 1900.
Exactement. Donc, et on se voit que les Français, en fin de compte, crapahutent derrière avec leurs Gaulois pour quand même arriver à exister aussi dans leur discours, y compris dans l'iconographie, dans l'allégorie vichyste, qui cherche là aussi une forme de légitimité scientifique à ce discours-là. Et ça m'a rappelé un très bon livre que Faligo avait sorti il y a quelque temps, cette jeune chercheuse, je ne sais pas si tu te souviens, sur race et racisme, et un autre sur, en gros, la République racialiste, où elle montrait comment la République française, à un moment, tente aussi de se légitimer au nom d'une race française. On se dit les républicains, totalement infiltrés par la pensée raciologique de la fin du 19e et par une pensée raciste outre-mer aux colonies, qui va totalement inhiber la pensée républicaine jusqu'à... Et là, on est dans la démocratie, on n'est plus dans la dictature. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est qu'en fait, et c'est là, je dirais, c'est peut-être le seul point limite de cet ouvrage, on le ferme en se disant, voilà, les dictatures ont eu besoin à un moment des scientifiques pour arriver à exister.
Mais la République aussi.
La République aussi. C'est-à-dire que c'est autant valable ce qu'on est en train de se dire là pour les démocraties politiques, c'est qu'à un moment, il faut légitimer par la science son pouvoir. Donc ça nous interroge sur encore quelque chose qui est, moi je trouve, assez fascinant. C'est à un moment là, le rôle des scientifiques de dire non. De dire non quand à un moment le régime vous instrumentalise. Là on se rend compte que c'est parce que c'est 90% des anthropologues qui en Allemagne ont été au service du régime.
Et 100% en France.
Hein. Exactement. On se dit, les gars, il y a un moment, où est leur responsabilité? Parce qu'on a souvent dans l'imaginaire collectif accusé un certain nombre de corps, la gendarmerie, la justice ou Vichy, mais on se dit... Les scientifiques, ils n'ont pas été terribles non plus. Pendant ces années-là, ils ont largement abreuvé de leur savoir, de leur science, sans prendre beaucoup de distance, et quelque part l'ont légitimé d'une manière incroyable, puisque faut jamais oublier que beaucoup croient quand un chercheur nous dit quelque chose, ben on a plutôt une tendance à se dire qu'il a raison.
Oui, clairement dit.
Et d'ailleurs, enfin, ce qui est là aussi très bien montré dans le livre, c'est comment toutes les découvertes sont immédiatement interprétées dans le sens souhaité par le pouvoir en place, c'est-à-dire que l'on trouve des tessons, que l'on trouve des inscriptions. Il y a toute une supercherie où on croit découvrir une langue germanique inconnue et qui est écrite en bas-breton pour faire là aussi. Tout ça est immédiatement utilisé. Enfin, c'est vrai que cette réécriture permanente du passé est quelque chose d'assez effrayant parce qu'on se dit qu'on vit dans ça, dans sans cesse le leurre. On nous montre quelque chose qui n'est jamais la réalité mais qu'on désigne comme tel au nom de la science.
Et c'est aussi ce que disait Bruno Latour qui était l'invité ce matin de Marc Boinchet sur l'institution, sur le problème de croire nécessairement et toujours ce que disent les scientifiques. On ne croit pas forcément les scientifiques. Il n'est pas question de croire, il n'est pas question de croyance et on fait dire un peu ce qu'on veut là aux objets archéologiques que l'on trouve. C'est précisément ce que disait une archéologue qui était l'invitée de Sciences Publiques le 23 septembre dernier, 2011, Estelle Villeneuve. Écoutez-la au micro de Michel Albert-Ganti.
Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses, peut-être l'archéologie scientifique et, les résultats de l'archéologie et la médiatisation de l'archéologie. Et je pense que quand on parle d'archéologie, de débat brûlant, c'est plutôt comment cette archéologie est traduite dans les médias. Et effectivement, ça fait soit parce que c'est un sujet sensationnel, soit parce que ça va dans le sens d'émotions religieuses, etc. Donc, mais de fait, la méthode archéologique, elle est la même qu'on soit en Israël, qu'on soit en Palestine ou qu'on soit partout ailleurs. La question des méthodes de fouilles est la même, la question des techniques est absolument la même. C'est un pays où on applique un champ méthodologique de la même façon qu'ailleurs. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir, d'une part, sans que l'archéologue s'en rende compte lui-même, des débats d'idées dans lesquels il s'inscrit et une interprétation qui va aller plus dans un sens que dans l'autre. Quand, par exemple, dans une fouille, on trouve deux objets, un objet du 8e siècle avant et l'objet du 6e siècle avant. Bon, il y a deux manières de voir les choses. Ou bien on considère que c'est l'objet le plus récent qui prime, avec le principe de ce qu'on appelle du terminus postquem. Et dans ce cas-là, c'est l'objet ancien qui est en fait dans un contexte plus récent. Mais vous pouvez vous dire aussi, oui, mais finalement, notre fouille, elle prouve que l'objet le plus récent était déjà en circulation plus tôt. Vous voyez, donc pour une même situation, il pourrait y avoir deux explications différentes. Bon, alors, eh bien, ce qui ouvre la porte à des interprétations en fonction de ce qu'on préfère. Si on préfère que ce soit plus récent, je caricature, hein, parce que c'est pas comme ça que les choses se passent, mais c'est un exemple un peu caricatural. Donc, oui, l'archéologue arrive avec ses propres interprétations, avec son background culturel, avec ses aspirations, avec sa sensibilité.
Toby Nathan.
Alors, bon, évidemment, elle défend sa discipline. Hein. Moi, je crois que ce que nous a apporté ce bouquin, il nous montre la fragilité des universitaires. Je dis ça, j'en suis un. Hein. La fragilité des universitaires devant les financements, quoi. C'est-à-dire, tu as des financements, tu dis ce qu'on attend que tu dises, quoi. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Et sans même le savoir, évidemment, il ne faut pas demander à ceux qui défendent leur discipline de confirmer. Ils vont dire non, et bien entendu, et ils l'ont toujours fait. Maintenant, il y a des moments où l'archéologie vient en rupture avec l'idéologie ambiante. Et c'est là où j'aimerais bien discuter avec Gérard Mordillat là-dessus, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a laissé entendre tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ce qu'il pense ou c'est ce qu'il a laissé entendre. Par exemple, je repense à ce bouquin extraordinaire d'Israël Finkelstein, qui s'appelle La Bible dévoilée, en fait, La Bible déterrée, en fait, en anglais c'est déterré, et où il fait toute une série d'énoncés qui vont à l'encontre de toute l'idéologie ambiante. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, il commence à dire, d'abord, il n'y a pas eu d'exode, et les Juifs ne sont jamais sortis avec Moïse d'Égypte, parce qu'ils n'y sont jamais allés en Égypte.
Jamais, hein. Oui.
Et ils ne sont jamais allés en Égypte, ils étaient deux là, et donc il n'y a pas eu d'exode. Et là, il amène cet énoncé, il n'y a pas eu d'exode, à partir de ses recherches archéologiques. Et tout d'un coup, toute la pensée religieuse juive qui est extrêmement présente en Israël, moi j'y étais quand il y a eu ces débats, etc. J'avais une fonction là-bas, j'étais diplomate à ce moment-là en Israël, et j'ai vu toute cette agitation autour des propositions d'Israël Finkelstein et comment il a tenu ferme et que les autres ensuite sont venus et ont été obligés de repenser leur discours à partir de là. Donc il y a une archéologie scientifique qui ne fait pas des énoncés, mais qui vient fracturer les évidences. Et à ce moment-là, c'est aux autres de venir s'aligner. Ça, je l'ai vu faire. Hein.
Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est vrai que ce sont des exemples. En réalité, ce sont les fameuses exceptions qui confirment la règle.
C'est une exception, c'est vrai.
C'est de la même manière sur l'histoire chrétienne. Les fouilles à Nazareth, par exemple, montrent que l'endroit qui est désigné comme tel n'a pas été habité avant le 2e siècle après. Donc ça veut dire que si Nazareth existait, en tout cas, c'était pas là. Et est-ce que Nazareth ne serait pas une pure création littéraire qui ensuite a été désignée comme un lieu? On a dit c'est là, et tout le monde a dit c'est là. Idem pour le Saint-Sépulcre, idem pour tous les lieux saints. Je me souviens de Étienne Naudet, qui est un père dominicain de l'école biblique et archéologique
de
Jérusalem, qui disait « Mais pour qu'il y ait un lieu saint, c'est très facile, il faut qu'il y ait une route. Les pèlerins vont sur la route. Quand ils en ont assez de marcher, ils s'arrêtent. On lit quelques passages du Nouveau Testament. Il y a un marchand de cacahuètes. Après, il y a un café-tabac. Et finalement, c'est un lieu saint. » Il le racontait comme ça. Eh bien, c'est vrai que l'archéologie, c'est aussi ça. Et l'exemple que vous citez est très vrai, parce que ça a fait débat, bien entendu, en Israël, puisqu'il disait « Mais le royaume de David, c'était au mieux une grosse ferme.
» C'était tout petit.
C'était tout petit. Et donc là, ce qu'on voyait, bien entendu, c'est la puissance de la littérature. Et dans le livre de Laurent Olivier, on voit aussi cette puissance de la littérature, comment Rosenberg et son institut écrivent, refont, réécrivent sans cesse l'histoire. Parce que je crois que c'est cette relation, et vous l'avez très bien dit au début, entre le mythe et l'origine, et d'un seul coup, eh bien oui, ce qui est découvert dans la terre doit être écrit pour avoir une légitimité.
Pascal Blanchard.
Ce qui est découvert dans la terre, aussi les priorités, on vient de le dire, scientifiquement, ça c'est essentiel. C'est pas simplement l'argent ou les moyens, c'est aussi à un moment l'espace qu'on laisse aux scientifiques pour arriver à leur dire, presque à les guider, bien malgré eux peut-être, mais en même temps, je me rappelle ce côté fantastique quand les autorités françaises, par exemple, décident que la priorité en Afrique du Nord, à un moment, ça va être de travailler sur la période gallo-romaine. La période gallo-romaine a tous les budgets. Pour les fouilles, les écrits, pour les monographies fantastiques, on envoie des spécialistes, des peintres, des dessinateurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut légitimer que ce sol n'est pas un sol musulman, n'est pas un sol arabe. C'est un sol qu'en fait, il y aura une sorte de latence, de temps long entre la période romaine et la période française. Donc ce sol aurait toujours été ouvert à la civilisation européenne. Et quelque part, l'archéologie, là, les priorités, on le voit même après dans l'allégorie, dans les affiches fantastiques qui sont sorties sur Themsen et d'autres villes, c'est Rome c'est prime dans cet imaginaire. Et d'un seul coup, pour les... y compris les chercheurs là font leur boulot parce qu'ils fouillent pas dans n'importe où, ils fouillent sur des vraies traces, il y a des vraies traces en plus romaines, ils ont le sentiment de faire œuvre de recherche, mais c'est la priorité qu'on donne à ces travaux. C'est là que c'est important de dire qu'est-ce qui va être médiatisé, qu'est-ce qui va être pris par le pouvoir politique et mis en scène, qui va donc faire
discours. C'est ce qu'elle disait, Estelle
Villeneuve. Exactement, et là, la raison là-dessus, parce que c'est là où le scientifique se fait manipuler, pas tant sur ce qu'il accepte de faire en termes de recherche, ce qu'il accepte de ne pas combattre quand c'est médiatisé dans un certain sens. Quelque part, il lâche à maman prise et il laisse à d'autres le moyen de parler des travaux qui sont les siens, des fouilles qui sont les siennes ou des priorités qui sont les siennes. C'est ça qu'on voit, et je pense, de tout temps. Alors là-dessus,
Regardez aujourd'hui, en Arabie Saoudite, le Collège de France, les ethnologues sont autorisés à faire pendant 15 jours par an des fouilles. Ouais. Des fouilles qui sont entièrement cernées par l'armée. Pendant les 15 jours, ils ne voient ni femmes ni enfants. Et ils ont interdiction
Ils sortent rien, là.
Si, ils n'ont pas le droit de le sortir. Ils n'ont surtout pas le droit de publier leurs travaux dans le monde arabe, puisque qu'est-ce qu'ils trouvent ? Des églises. L'Arabie Saoudite, c'est l'ancien Yémen, mais qui était, au IVe siècle, le plus grand royaume chrétien qui existe. Et donc, évidemment, c'est en contradiction absolue avec l'idée que, bien entendu, ça serait une terre d'islam depuis toujours. On trouve... Ils n'ont pas trouvé de synagogue, alors que la présence des juifs était...
Mais il n'y a pas de synagogue.
Oui.
La culture juive n'est pas structurée autour des synagogues.
Bien sûr.
Ils ont trouvé des objets.
Oui, ils trouvent des objets, bien entendu. D'autant plus que ce royaume du Yémen était un royaume judéo-chrétien.
Le terme est absolument
impropre, mais enfin, c'est de juifs chrétiens. Voilà, c'était ça. Donc là, on voit exactement ce que vous dites. La recherche est forcément portée par un pouvoir politique, et ce pouvoir politique en attend des résultats immédiats pour son action.
Ce qui est plus étonnant, c'est ce que décrit Laurent Olivier quand il dit que lors de ses recherches, il a rencontré beaucoup d'hostilité, aujourd'hui même, de la part des archéologues qui n'ont pas du tout connu cette époque et qui parfois ne la connaissaient pas, ne savaient pas
que c'était passé.
Qui parfois ont nié, qui ne sont pas vraiment prêtés au jeu des archives et de la découverte, qui ont minimisé la portée idéologique chronologique de ces événements. Aujourd'hui, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, précisément, ces histoires de liens entre archéologie et nationalisme, l'exemple de l'Arabie Saoudite et l'exemple d'Israël en terre de Palestine en est un autre, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. On sait bien que les liens entre nationalisme et archéologie n'ont jamais été presque autant d'actualité, Pascal Blanchard.
Mais parce que c'est l'héritage des mandarins. Vous ne critiquez pas les maîtres qui vous ont formé, parce que c'est les mêmes, on le voit bien. Exactement. 47-48, la machine redémarre tranquille. Et une petite mise à distance, mais très vite, cette mise à distance, elle est contournée. On voit même à un moment que toutes ces thèses indo-européennes sont reprises dans les années 70 par les mouvements d'extrême droite. Ça ne dérange pas trop les archéologues, ils ne les dénoncent pas à ce moment-là. Quelque part, ils se font aussi manipuler. Et puis, c'est compliqué pour les derniers, la dernière génération, parce que c'est attaqué sa corporation. Vous êtes toujours dans des questions qui sont très simples, en fait. Cherchons pas. Alors, parce qu'il faut quand même un sacré courage, il faut quand même le dire, pour aller partir en introspection. D'ailleurs, il le dit au début. Moi, son intro, elle est géniale. En gros, c'est pourquoi je me suis intéressé à ça. On me propose un article, je vais gratter un peu, je reviens, rien. Je cherche, rien. Je joue les cartons, rien. Enfin, à force d'avoir du rien, généralement, c'est qu'il y a quelque chose. En gros, c'est ça sa thèse. Elle est géniale en termes de chercheur. Et il va chercher au-delà du rien pour commencer à trouver des choses.
C'est ça,
mais c'est toujours la même difficulté quand on veut travailler sur sa science. Moi, je sais très très bien que chez les historiens, quand vous faites de l'histoire coloniale, vous n'avez pas grand-chose. Et à chaque fois, on nous dit, il n'y a pas grand-chose. Jusqu'au moment où il y a plein de choses. Et ce plein de choses, il fait de l'histoire. Mais on sait qu'au départ, il faut aller plus gratter que quand vous faites des choses qui sont étalées, tranquilles, que tout le monde veut. C'est classique.
Gérard Bardière.
Il y a le poids du fantôme, d'une certaine manière. Il y a le fantôme, justement, de ce qui s'est passé pendant les années du nazisme, qui est là, qui est un poids. Alors, effectivement, ce sont les maîtres qui ont enseigné à ceux d'aujourd'hui et qui sont aussi ceux qui étaient là à ce moment-là et qui portent sur leurs épaules, sans le montrer, le fantôme de l'archéologie nazie. Donc, c'est évidemment très difficile, soudain, d'en parler parce qu'il y a cette prudence universitaire, cette prudence de la recherche. On rend hommage au maître. Et aussi, il faut dire qu'un des paradoxes, c'est que l'archéologie nazie a apporté un certain nombre de découvertes et qui ont permis de faire avancer l'archéologie. Et donc, on est pris entre ces deux choses. Bon, ça a quand même servi à quelque chose, peut-être de façon honteuse, mais essayons de l'oublier au nom de la science et concentrons-nous sur ce qui a été positif, si je puis dire.
Toby Nathan.
Moi, je trouve que l'archéologie est un super exemple pour juste montrer à quelles conditions on peut écouter le discours des sciences humaines. À quelles conditions ? Parce que le discours des sciences humaines est infesté d'idéologie dans tous les domaines. À quelles conditions on peut l'écouter ? On ne peut l'écouter que quand il est totalement international et conflictuel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut l'écouter. L'archéologie, on peut l'écouter parce que quand on écoute un archéologue israélien, on a aussi un archéologue palestinien qui dit un autre discours et qu'ils vont être, ils vont se confronter et ils vont confronter des éléments. Et ce qui nous intéresse, c'est la confrontation, c'est pas les vérités, quoi.
Absolument.
Et, et puis, en même temps, ce qui est gênant, et on le voit bien, c'est que c'est pas parce que c'est des scientifiques qu'ils ont raison. Et c'est très compliqué ce qu'on vient de dire là, cette petite phrase qu'on vient de dire. Tout le paradigme du scientifique, c'est l'inverse. C'est qu'il aurait raison et que la contradiction ne serait pas bonne. Mais non, c'est la contradiction qui est justement bonne. C'est l'opposition qui est intéressante. C'est ce qui fait débat, qui fait en fait la science. L'affirmation,
c'est
donc le maître. Et c'est tout l'envers de l'image qu'on a du maître. Voilà, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que là, il le démontre. Il faut en gros plus de 60 ans pour déconstruire quelque chose qui s'est construit et qui a rangé tout le monde par le silence. Et c'est le boulot, la contradiction. Il faut aller chercher dans les cartons, même quand ils sont vides.
Nos ancêtres, les Germains, les archéologues au service du nazisme. C'est un livre de Laurent Olivier paru aux éditions Taillandier. Je vous rappelle que Gérard Mordilla a sorti Ce que savait de génie, qui n'a rien à voir avec l'archéologie et rien à voir avec les nazis, chez Kalman Levy. De même que Toby Nathan vient de faire paraître Ethnoroman chez Grasset. Merci à tous les trois. Pascal Blanchard, on attend votre prochain livre. Mais je pense que je vous soupçonne d'être en préparation d'au moins 10 livres en même temps. Et je vous rappelle que désormais, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an. Restez d'ailleurs à l'écoute puisque la grande table continue après le journal. On se retrouve à 12h55. Nous serons en compagnie de deux écrivains, non, un écrivain et un cinéaste, puisque nous parlerons de l'Égypte avec Yousri Nasrallah d'un côté et avec l'auteur de Rêveur, c'est-à-dire Alain Blottière, de l'autre.